Le 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République. Sa victoire est accueillie avec beaucoup d'espoir par la communauté homosexuelle.
Et pas seulement, pensez donc. Mais aujourd'hui et la fois prochaine, parlons des gays. Oui, j'ai trouvé nettement moins de sons concernant les lesbiennes. Bonjour et bienvenue dans cette 27e visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Ce son de stupéfiant sur France Télévisions le 5 avril dernier nous rappelle qu'il faut attendre août 82 pour que l'homosexualité soit dépénalisée en France et quelques mois de plus pour qu'elle ne soit plus reconnue comme une maladie mentale. Tout ça parce que 40 ans auparavant, en août 42, Pétain en avait fait un crime contre nature.
Le 6 août 1942, un décret signé par Philippe Pétain rétablit le délit d'homosexualité. Toute relation sexuelle entre deux personnes de même sexe est interdite avant 21 ans, alors qu'elle est autorisée pour des hétérosexuels dès 15 ans. Pour la première fois depuis la Révolution française, la notion d'acte contre nature est rétablie. Jusqu'à l'abrogation du décret en 1982, plusieurs milliers de peines sont prononcées en France.
Pendant 40 ans, de 42 à 81, environ 10 000 homosexuels ont été condamnés pour leur orientation. Tous pouvaient subir garde à vue et procès. L'excellent doc d'Emmanuel Hamon, Homosexualité, les derniers condamnés, diffusé par France 5 mi-mai et encore disponible en replay, laisse parler les témoins et survivants de ces années-là. Je vous propose d'écouter assez longuement Bernard Bousset. Avant de créer dans les années 80 le syndicat des établissements gays pour promouvoir l'utilisation du préservatif auprès des autorités sanitaires et politiques, Bernard Bousset a bien connu les réprimandes, menaces et gardes à vue. Mais pas seulement.
Le propriétaire de tous ces hôtels avait un fils qui était sorti avec moi en cachette. Lui, il était majeur puisque j'avais qu'il avait une voiture. Moi, je devais avoir 18 ans. Et on l'a découvert dans le parc de l'hôtel des Béniaux à Dax, les deux bras fracturés et la mâchoire cassée. Et donc moi, j'ai pris peur complètement parce qu'on savait qu'il sortait avec moi. Moi, j'ai eu chez ma grand-mère, là même, j'habitais une maison qui s'appelait la Villa Solitude. On a eu des carreaux cassés à coups de cailloux. Mais un jour, ma grand-mère m'a dit, ça m'a marqué aussi, « J'en ai marre que tes coqs te courent après ». J'ai fini par quitter Dax et je suis parti à Bordeaux. Alors au début des années 60, à Bordeaux, il y avait deux bars. C'était les deux seuls qui existaient. Et ils existaient certainement parce qu'ils avaient des connivences avec la police. Parce que moi, je connaissais très bien la patronne du Fuxéen et elle devait donner des noms. Elle notait des noms comme ça et un jour, je lui ai demandé pourquoi c'était. Elle m'a dit bah, « Pourquoi tu crois que je reste ouvert ?» Alors, le Fuxéen à Bordeaux, quand on rentrait dedans, il y avait un jukebox, on mettait des pièces. Et moi, quand je rentrais, je me souviens toujours, il y avait un qui mettait une chanson de d'Edith Piaf.
Musique de Georges Moustaki, enregistrée comme Milord en 59 à New York.
T'es beau, tu sais, et ça s'entend lorsque tu passes. T'es beau, c'est vrai, j'en suis plus belle quand tu m'embrasses. Je te dessine du bout des doigts ton front, tes yeux, ta bouche. Comment veux-tu dessiner ça? La main me tremble quand j'y touche. T'es beau, mon grand. Et moi, vois-tu, je suis si petite. T'es beau tout le temps. Que ça me grandit quand j'en profite. Reste là, ne bouge pas, laisse-moi t'imaginer. T'as l'air d'être l'été, celui qui pleut jamais.
C'était drôle, c'était une façon de draguer. À l'époque, c'était discret, on mettait un disque pour faire comprendre aux garçons qui nous plaisaient.
Quand tu m'embrasses,
on avait instauré des repères. C'était des foulards, c'est-à-dire le foulard rouge, tu m'intéresses. Le foulard jaune, c'était une autre pratique sexuelle. Et il y avait encore une autre couleur pour dire qu'on était actif ou passif.
Tu me réchauffes et tu m'endors, tu fais soleil, tu fais colline. Viens contre moi, il pleut dehors. Mon cœur éclate dans ma poitrine. T'es bon partout. C'est trop facile d'être sincère. T'es bon, c'est tout. T'as pas besoin de la lumière.
Et à Paris, un jeune Normand s'aventure dans un lieu mythique pour les rencontres entre hommes. Faut dire qu'il n'y en avait pas tant que ça en fait.
Je me lance à un moment donné, je vais sortir dans une boîte, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, qui s'appelle le Fiacre, qui est une boîte homosexuelle. Il y avait des soirées organisées par Arcadie. Arcadie, c'est le mouvement qui était créé par André Baudry, qui est un épisode très important. C'est des mouvements de libération qui vont suivre pendant 30 ans. On ouvre dans la boîte et là, il y a une série de vieux messieurs en costume cravate qui me sautent dessus sans me demander, vraiment poser la question. Enfin, c'est une façon de draguer, entre guillemets.
Vous avez fondé le Club Arcadie, un club pour homosexuels. Alors quels sont ces hommes qui viennent à votre club?
Tous sans exception.
Pourquoi est-ce qu'ils viennent?
Ils sont seuls. Ils sont mal dans leur peau. La société ne les accepte pas. Ils sont seuls. Quel est, et vous le savez, quel est l'homme qui n'a pas besoin de tendresse, qui n'a pas besoin d'amitié, qui n'a pas besoin d'amour? Tous. Alors, ils viennent pour cela. Aussi bien des ouvriers que des hommes d'affaires, des magistrats, des prêtres, des jeunes, des vieux, tout.
Le Fiacre, c'est Louis du Fiacre qui tenait ça, qui était un personnage de la nuit, très connu dans Paris, qui avait beaucoup de relations. Le Paris gay connu, comme Carnet, Cocteau, Jean Marais, pouvait sortir, aller s'encanailler, rencontrer des garçons en bas et partir avec eux. C'est ce qui se passait, ça, c'était rue du Cherche-Midi.
Un autre lieu semble bien connu des jeunes parisiens. Bernard y est allé en train direction les portes de la Normandie.
On prenait le train à Saint-Lazare, on y allait le dimanche, et il y avait un thé dansant entre garçons. Et c'est la première fois que j'ai dansé avec un garçon sur une chanson de Françoise Hardy, « Tous les garçons et les filles de mon âge ».
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux.
C'était une colonelle qui avait fait la résistance avec le général de Gaulle. Elle était lesbienne. À l'époque, on dansait des slow. Je découvrais presque le paradis.
Ils s'en vont, amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, la montagne.
Là, oui, mais quand on reprenait le train pour rentrer à Saint-Lazare, bon, on avait toujours la trouille de se faire arrêter par les flics parce qu'on revenait de là.
13 mai 2022, c'est à vous sur France 5. Retour au doc, les derniers condamnés.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand on était arrêté, le commissaire de police ou un de ses subalternes appelait l'employeur et la famille. Ce qui fait que l'employeur, on pouvait être licencié parce qu'on était homosexuel. On pouvait même perdre son logement. C'était un délit, donc on était un délinquant. Et on était vus comme des délinquants.
Alors moi, j'ai été arrêté deux fois. Une fois à Bordeaux, une garde à vue de deux jours, où le lendemain de garde à vue, le commissaire de police, après avoir pris les empreintes et tout, a téléphoné à mon employeur et à ma famille. Mais mon employeur, je ne suis pas retourné, j'avais tellement honte que je me suis licencié de moi-même.
Dans les mêmes années, voici en quels termes s'exprimait un député conservateur à l'Assemblée nationale, ici en 1960.
La séance est ouverte. La parole est à Monsieur Paul Mirguet, député de la Moselle.
Je pense qu'il est inutile d'insister longuement, car vous êtes tous conscients de la gravité de ce fléau qu'est l'homosexualité. Fléau contre lequel nous avons le devoir de protéger nos enfants. Au moment où notre civilisation, dangereusement minoritaire dans un monde en pleine évolution, devient si vulnérable, nous devons lutter contre tout ce qui peut diminuer son prestige.
Alors qu'en 61, l'Eurovision fait gagner le Luxembourg et Jean-Claude Pascal avec cette chanson, vite devenue l'étendard de toute une communauté.
Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer, on voudrait nous empêcher d'être heureux. amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette, ou bien le fer et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont mille et l'on est deux, les amoureux. Mais l'heure va sonner des nuits moins difficiles. Et je pourrais t'aimer sans qu'on en parle en ville. C'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, le soleil brille pour nous et l'on dort sur les genoux du bon Dieu. Amoureux, il nous a donné le droit au bonheur et à la joie d'être deux. Alors les sans amour, les mal aimés, il faudra bien nous acquitter. Vous qui n'avez jamais été condamnés. Les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel est avec nous, les amoureux.
Au mi-temps des années 70, un intellectuel qui ne cache ni son orientation ni sa pensée dans les émissions où il officie, notamment le fameux Masque et la Plume sur Inter, s'exprime avec la détermination qui le caractérise. Jean-Louis Borry.
Le bonheur est une chose très importante dans la vie. Quand on s'aperçoit que votre nature vous oblige à une poursuite, c'est la moitié d'orange, à une poursuite du bonheur qui n'est pas acceptée par la société, c'est très difficile, d'abord parce qu'on a envie de se camoufler, il y a beaucoup de types qui ont honte, qui se camouflent. Et justement, je me suis dit, il y en a marre. La société se fout de votre bonheur. Ce qui compte pour la société, c'est l'ordre. Par conséquent, elle demande aux individus d'assujettir le bonheur à l'idée que c'est fait de l'ordre. Mais bon. Il y a des individus qui ont besoin d'être heureux hors d'un certain ordre.
On vous laisse tranquille, je veux dire...
Je suis heureux de profiter de cette occasion pour en parler sérieusement, parce que j'appartiens à un milieu, qui est celui-là. Qui est sublimement pourri. J'appartiens à une société qui est la classe bourgeoise, qui maintenant l'a tellement vue qu'elle permet tout. Et par conséquent, puis comme j'ai une petite notoriété sur le plan de littérature, bon, alors je peux me permettre de dire certaines choses. Eh bien, il y a des tas de gens qui en crèvent parce qu'ils ont honte, qui en crèvent parce qu'ils sont simplement poinçonneurs, parce qu'ils sont vendeurs dans un magasin, parce qu'ils sont ouvriers d'usine, il y en a, et qui en souffrent horriblement.
C'est là que l'on doit apporter un autre pan, ô combien plus problématique, la considération médicale. Pour commencer, je vous propose d'écouter un éternel, un académicien français, si vous préférez, Dominique Ferrandez, agrégé d'italien, professeur émérite, 92 ans, a beaucoup écrit, alors quand, dans les années 50, il cherche à savoir, voici ce qu'il trouve. Son témoignage est dans le doc de France 5.
Les seuls livres où on parlait des homosexuels étaient les livres des psychiatres et des psychanalystes. Et moi, je les ai dévorés à l'époque. Et le grand livre était de Wilhelm Stekel. C'est un psychanalyste viennois, disciple direct de Freud, publié par Gallimard en 53, si je me souviens. C'était fait d'analyse de cas très nombreux, mais c'était effrayant. C'était un tableau tellement pessimiste et noir que c'était accablant. Et c'était tous des gens complètement tarés, dépravés, au bord du suicide ou de l'ivrognerie. Et il disait, je n'ai jamais vu d'homosexuel heureux. Évidemment, il ne voyait que des épaves. Il n'avait pas l'idée qu'il y avait des gens qui n'allaient pas le voir, qui étaient tout à fait heureux. Moi, j'y croyais. Et je me suis dit, ben voilà, ma vie est ratée d'emblée, tout de suite.
C'est à vous, mai 2022, Ariane Chemin.
C'était honteux, c'était aussi l'époque où on ne savait même pas très bien ce que c'était que l'homosexualité. Chaque fois qu'on invite quelqu'un sur un débat au début des années 70 pour parler de l'homosexualité, il y a toujours un psy et un prêtre. Hein. C'est comme si vraiment c'était quelque chose de monstrueux. Et ça, on le savait... on commence à l'explorer parce que les études sont encore balbutiantes sur ce sujet-là.
France TV Info, en septembre 2019.
L'homosexualité est-elle une maladie ?
Voilà une question qui peut choquer aujourd'hui. Pourtant, elle était au cœur des débats dans les années 70 et 80. Car dans ces années-là, l'homosexualité était catégorisée comme une maladie mentale en France. Dans les émissions médicales, des psychiatres expliquaient alors leur méthode pour prendre en charge ce symptôme, comme ils disaient.
Mais tout à l'heure, on a parlé là dans cette réunion des problèmes homosexuels qu'il pouvait y avoir. Et une question qu'on pouvait se poser à ce moment-là, c'est jusqu'où doit-on aller dans la tolérance du symptôme ? Est-ce qu'on doit laisser faire en se disant, ils ne peuvent pas faire autrement, ou est-ce que nous avons à intervenir ? C'est souvent la question qu'on se pose à l'intérieur de nos réunions.
Il me semble que c'est eux qui vivent notre tolérance comme un rejet.
Notre permissivité est réelle, mais elle trouve ses limites dans les sujets eux-mêmes. C'est eux qui s'imposent à ce moment-là des limites. C'est ce que vous êtes d'accord ?
Oui.
Cette histoire du symptôme toléré par nous. Car à l'hôpital psychiatrique, est-ce que c'est un endroit où on va tolérer tous les symptômes ? Bon, ça, on pourrait se le demander, ça pourrait être à la limite justifié. Seulement, ça n'aurait rien de dynamique, ça ne serait pas productif au point de vue thérapeutique. Et alors, il faut que nous arrivions à jouer une espèce de balance entre tolérer le symptôme, l'accepter, et des fois, on y est drôlement entraîné, et puis à d'autres moments, au contraire, ne pas l'accepter, de manière à ce qu'il y ait un progrès qui puisse se faire.
Certains psychanalystes étaient persuadés de connaître les causes de cette fameuse maladie. Tout viendrait de la mère.
Je crois qu'il faut revenir aux sources et que c'est au niveau de l'influence de la mère et aussi de l'influence du père qu'il faut faire remonter les causes principales de l'homosexualité. Eh bien, l'influence de la mère, c'est la mère dominatrice, c'est la mère qui couve son fils, c'est la mère qui détient toute l'autorité, c'est la mère qui écrase le père.
Baigné dans ce contexte où homosexualité égale maladie et même perversion, certains homosexuels cherchaient alors à se faire soigner par de longues psychanalyses.
Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai tenté pour me faire soigner, n'a en fait rien donné. Ces messieurs voulaient absolument me démontrer que j'étais un homme normal, que c'était un accident, qu'en effet j'étais un petit peu fatigué, etc.
Au même moment, dans le milieu homo, certaines voix s'élevaient.
Une transsexuelle vers 73.
Je sais pas pourquoi les gens comprennent pas ça. Je sais pas. C'est bizarre. Après tout, c'est pas une maladie. On a toujours dit que c'était une maladie, mais moi, depuis l'âge de 5 ans, j'ai eu envie de m'habiller en femme, me suis mis en femme, j'ai grandi, j'étais une gamine à l'école. Si tu veux, j'étais pas un garçon. Et alors, c'est un état normal pour moi. Mais je me rends compte vis-à-vis de la rue que ils prennent ça comme un état anormal, comme une maladie, comme une tare, tu vois.
Rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine du dragon. Le rire du sergent, un matin de printemps m'a fait comprendre comment aller du galop, sans aller du la cour, en chantant simplement quelques chansons d'amour. Le rire du sergent, la folle du régiment avait un cœur de troubadour.
Et Sardou dans les mêmes années. Bon, ok, il aurait joué sur l'ambiguïté textuelle. Rappelons qu'en matière de morale, Sardou fut père deux fois à un mois d'intervalle.
Je pense que l'homosexualité est par essence clandestine.
En 73, le jeune écrivain Yves Navarre vient de faire paraître son troisième livre, Les Loukoums, où il parle d'une dangereuse maladie se répandant dans les milieux gays de New York.
C'est-à-dire, je citerai à cet égard une anecdote. Je me suis fortement interrogé sur la nature de mes tendances, sans aucun complexe, je l'avoue, car j'ai toujours assumé ma propre homosexualité. Elle ne m'a jamais paru redoutable, d'abord parce que, de par mon éducation, j'avais appris que dans certaines civilisations, ancienne, elle n'avait jamais, elle n'était pas jugée comme un tabou de la société, donc il n'y avait aucune raison que moi je ne l'accepte pas et je ne l'assume pas pleinement. Cela dit, elle me posait bien évidemment des problèmes dans mes rapports avec ma famille, c'est-à-dire mon premier milieu social, enfin le milieu avec lequel, adolescent, j'étais en prise quotidiennement. Et à ce moment-là, je me souviens très très bien en avoir parlé à des gens très différents, d'horizons très différents, homosexuels ou non, mais qui gravitaient hors de mon milieu, du milieu familial, et qui m'ont tous dit « n'avoue jamais ».
Si tu tiens à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qui ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, 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 n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais.
Mardel a concouru pour la France à l'Eurovision 65.
Il est un homosexuel et comme en temps de guerre, un résistant. C'est un résistant ad vitam aeternam.
Parce qu'il est une minorité.
Parce qu'il est une minorité, qu'il doit se défendre et qu'il ne peut se déployer que dans un cadre de clandestinité.
Yves Navarre, est-ce que ça vous énerve quand on dit que vous êtes l'écrivain d'un seul thème, l'homosexualité ?
Tiens, encore un expert en vertu et bonne moralité.
Ah oui, ça, oui. Le mot d'homosexualité ne m'énerve pas. Il me gêne parce que ce sont les autres qui le rendent gênant. Je suis un écrivain d'une sensualité qui m'est propre, enfin, qui est dans ma nature. Et puis je suis avant tout et tout simplement un écrivain. On a voulu m'étiqueter écrivain homosexuel, disons que je suis écrivain. Et par ailleurs, dans la vie, j'ai une sensualité qui me fait vivre une vie que d'autres trouvent différente.
En tout cas, un écrivain que tous peuvent aimer.
Je crois que c'est le sujet de tous mes romans, en fait. C'est le sujet d'un amour qui est indifférencié selon les êtres et la nature de leur sensualité.
Très franchement, est-ce que c'est votre meilleur livre ?
À cette question con, faut bien le dire, Yves Navarre fume, l'ignore et commence sérieusement à bouillir. Donc on va s'arrêter là. France TV Info, 10 septembre 2019.
Il faudra attendre 1982 pour que les lois discriminantes envers les homosexuels soient abolies. Et 1983 pour que l'État ne considère plus l'homosexualité comme une maladie mentale. De quoi réjouir les associations comme le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle par exemple.
En effet, dans ses classifications, l'OMS considérait l'homosexualité, celle de l'homme, celle de la femme, comme une maladie mentale. Et ça, en France, ça a disparu.
L'Organisation mondiale de la santé cessera seulement en 1990 de considérer l'homosexualité comme une maladie mentale.
Et c'est ainsi que se termine la 27e visite de la saison 5 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com, la première consacrée à la dépénalisation de l'homosexualité, la seconde qui suivra reviendra sur un grand procès, une campagne présidentielle, l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et la liberté de sexualité de chacun et deux magnifiques discours de Gisèle Halimi et Robert Badinter. Mais ne les quittons pas sans musique et sans cette chanson de Jean Guidoni en 80, Viril. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et ne vous privez pas d'être heureux en étant libre ou l'inverse.
Tout a commencé il y a 6 mois, quand maman posait ses brise-brises, ses anneaux de rideau devant moi. Ça m'a fait faire bien des bêtises. J'avais lu qu'à San Francisco, les gros durs s'en mettaient au sexe. Et quand se déhanche en disco, leur jean en était tout convexe. Le mien, il vient du BHV, il n'est pas en or, mais en cuivre. Et si je suis vert de grisé, je connais enfin la joie de vivre. Moi, je suis viril, je ne bats pas des cils, mon profil est des plus érectiles.
mon côté fragile, mon air malhabile, sur le fil, m'empêche pas d'être viril. L'anneau, c'était le premier pas, et bientôt, ce fut l'engrenage. L'un après l'autre, mes appâts durent accepter un esclavage. À mon oreille, j'ai fait river une jolie perle en galalite. En haut de mes reins, on a tatoué occasion à saisir de suite. L'un de mes deux seins est bagué, et pour celle-ci, je porte une chaîne. Ce n'est peut-être pas très distingué, mais j'aime tant sentir votre haine. Car être viril, c'est plein de périls. La grande ville souvent nous est hostile. Il y en a que j'horripile, d'autres qui jubilent. Imbécile, parce que je suis viril. Les gros cubes étant hors de prix pour échapper aux gens honnêtes. Quand loin des foules je m'enfuis, je ne fais brombir que ma mobilette. Pareil pour le cuir, c'est du sky qui me moule ainsi qu'une gaine. Et s'ils parlent d'épouvantail, c'est qu'ils envient tous ma dégaine. Mais j'ai beau n'être qu'en plastique, je me ruine quand même en barat à nœud. Nous les machos faut qu'on s'astique, le blouson, le poing, la banane. Quand on est viril, on se fait de la bile, très fébrile entre nos ustensiles. Qu'on soit scatophile ou faiseur d'idylle, pas facile d'être vraiment viril. À 6 heures, je sors du bureau pour aller me taper de la gonflette. Puis je consulte les bons journaux afin d'y faire mes petites emplettes. Moustachu cherche baraqué pour bonne baise sous toutes les formes. Sapeurs et gendarmes souhaités s'ils peuvent garder leur uniforme. Après on se retrouve dans un bar où l'on peut faire des tas de manières. Parler d'Alida et Béjart en sirotant des boîtes de bière. Nous les mecs virils, de cuir ou de vinyle, notre babine n'ont vraiment pas de style. Si notre évangile vous paraît stéril, voire débile, c'est que vous n'êtes pas viril. La 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 la.